Salut à tous. Avant que j'oublie, je vais remercier l'occasion d'être ici parmi vous et confier cette tâche à quelqu'un de l'extérieur, c'est pas évident. Et je vous remercie la confiance et l'invitation. Bien. Il a déjà vous épargné de ma lecture pénible. Par contre, vous n'échapperez pas de mon accent. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai donné comme titre, ranimer, raviver les dons de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons soif et faim de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes là. Cette parole qui nous nourrit, et c'est cette parole qui nous donne la force et qui nous donne un peu de sens dans ce monde. Parce que nous vivons des jours difficiles où on se demande les motifs, la raison pourquoi Dieu vraiment a créé le monde, pourquoi finalement, sachant que l'homme aurait péché, pourquoi il a simplement changé d'idée, il a fait une autre chose. Parce que tout ce que nous voyons devant nous, c'est la souffrance, un monde en guerre, des milliers de gens qui meurent de faim, des maladies. Donc tout ça nous accable. Tout ça nous rend triste, mais c'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux pour savoir qu'il y a encore un espoir, qu'il y a encore Dieu a encore un projet pour chacun de nous. Même dans ce monde déchu, on peut trouver le bonheur qui vient de Dieu. Cette lettre à Timothée a été écrite par Paul. Et nous savons tous que Paul a été le plus grand homme après Jésus-Christ. Et je ne pense pas que nous avons un autre Paul. Parce que si on aurait au moins 5 Pauls dans toute l'histoire, le monde serait différent. C'était un homme d'une foi incroyable, qui n'a pas vu Jésus de ses yeux. Peut-être que Jésus, quand il était mort, Paul était très jeune. Mais Jésus lui est apparu en vision et il a appelé cet homme qui persécutait l'Église pour devenir un apôtre, pour aller porter l'Évangile. Il est devenu même plus important que Pierre. Pierre qui est réclamé par l'Église romaine comme le chef. Donc Paul est devenu plus important que lui, si on pourrait dire comme ça les choses. Parce qu'il a tout fait pour l'Église. 13 des livres du Nouveau Testament sont de l'autorité de Paul. Il écrit à Timothée, qui était un jeune, très jeune, mais il avait aussi une belle foi, une foi ferme dans le Seigneur, déjà une foi qui a été transmise par sa maman. Et Paul lui traite comme un disciple très aimé où il avait toute sa confiance. Et Timothée est devenu le pasteur de l'église d'Éphèse, d'une grande ville dans l'Antiquité. Malgré sa jeunesse, il est capable, par le don que Dieu l'a donné, qui a été révélé au moment que Paul priait pour lui, qui a été révélé son don au pastorat. Et cette lettre, pour tous ceux qui veulent aller au ministère, il faut commencer à lire la Bible par les livres de Timothée. Là-dedans, première et deuxième épître à Timothée donnent tout ce qu'il faut comme norme, comme enseignement pour ceux qui veulent aller au ministère. Mais il y a aussi des applications pour nous dans ce texte. Il ne faut pas seulement voir ceux qui vont aller prêcher l'Évangile. Parce que nous tous, nous sommes appelés à aller prêcher l'évangile. Peut-être on ne va pas gagner beaucoup de gens pour Jésus, mais il faut qu'on gagne des âmes pour le Seigneur. Peut-être plutôt par notre silence, par notre exemple, au moins que personne puisse être empêché d'entrer dans le royaume des cieux par notre mauvais exemple. Donc, si déjà on donne un bon exemple de vie, nous faisons l'œuvre de Dieu, parce qu'on n'empêche pas les autres de venir. Et parfois, même si on ne dit rien, il y a des gens qui vont dire, là, vraiment, les dieux qu'ils servent, cette religion, il y a quelque chose, il faut que je m'enseigne. Parce que vraiment, là, il y a quelqu'un de différent. Les dons de Dieu, on ne choisit pas. Les dons de Dieu, on l'accepte tout simplement. On ne peut pas choisir un don. C'est Dieu qui nous donne selon sa volonté. Les dons de Dieu est simple, comme Jésus était simple. Les dons de Dieu est beau et sans explication. On ne peut pas expliquer pourquoi un frère comme celui-là, qui n'a pas beaucoup d'études, peut parler de cette manière. Celui qui n'a pas fait des grandes écoles, comment il peut chanter et jouer si bien les pianos. Et un autre, comme il sait aborder les gens, celui qui n'a pas fait, il ne connaît même pas, lu un livre de psychologie. Comment il sait aborder les gens, comment il sait traiter. C'est un don de Dieu. Les dons de Dieu, c'est toujours pour l'édification de l'Église. C'est en vue de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il faut accepter qu'on n'a pas tel don là, et que l'autre là. Et ça, c'est très difficile. Ça nous touche directement notre orgueil et notre autosuffisance. Il faut d'abord, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut nous vider même de nos rêves de grandeur. Et c'est là, parfois, prendre toute une vie. Une prédication, on ne la prépare pas dans une semaine, un mois. Une prédication, ça prend toute une vie. C'est quelqu'un qui va parler, il doit vivre ce qu'il va parler. Il doit passer par des expériences très difficiles pour apprendre d'abord qu'il n'est rien et que Dieu est tout en lui. Ce n'est pas son intelligence, sa capacité, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu à travers du Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans chaque cœur. Pour s'évider de soi-même, il faut prendre la dernière place, il faut se remplir de silence. Parce que le don de Dieu ne cohabite pas avec les succès. Et le don de Dieu a une incroyable amitié avec la défaite et l'humiliation. On ne se sent pas digne. C'est comme ça le don de Dieu. Le plus grand don de Dieu aux hommes, c'était son fils qui est né dans une crèche, là où on sentait les caca des animaux, là est né le fils de Dieu. Et il est mort sur une croix maudite pour les Romains. C'était comme ça que Dieu nous a fait les plus grands dons à nous. Mes amis, il faut toujours se méfier de ceux qui s'élèvent et essayent de s'élever plus que les autres, parce que personne ici est plus que l'autre. Jésus même a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit celui qui sert, celui qui se met à la disposition des autres. Il faut se méfier du tel prophète, du guérisseur. Il ne faut jamais se complexer devant ceux qui ont n'ont plus des murs pour accrocher leurs diplômes, de ceux qui ont besoin de louer une autre maison parce qu'il a tellement de diplômes chez lui. Jamais, jamais. Parce qu'ici, dans l'œuvre de Dieu, c'est tout à fait différent. Jésus était simple et Jésus appelait des gens simples pour faire son œuvre. Bien sûr, s'il nous donne l'occasion d'étudier et nous former, que ce soit d'abord pour sa gloire, qu'on puisse nous cacher derrière la croix de Christ, qu'on puisse faire comme Paul a dit qu'il a méprisé tout ce qui était à lui pour gagner Christ. Oui, parce que dire le nom de Dieu, c'est facile. On peut avoir le nom de Dieu au bout des lèvres et l'amour au solier de nos chaussures. N'est-ce pas? Ce sont les pharisiens modernes. Et je vais vous dire une chose, chacun de nous est un peu un pharisien de temps en temps. Jésus nous dit, je vous le dis en vérité aux pharisiens, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans les royaumes de Dieu. Ah, Jésus savait comment humilier par ces mots. Paul dit à Timothée, ranime Timothée, les dons qui est en toi. La flamme doit être entretenue. Ce qui est chaud est déjà au point de se refroidir. Si tu veux boire du thé chaud, vous aimez le thé, n'est-ce pas? S'il faut qu'il se soit chaud, il faut le mettre toujours à la chaleur, sinon il se refroidit. Vite fait. Et c'est là, c'est notre combat, notre devoir de réchauffer, de ranimer. Ce n'est pas au Seigneur, ce n'est pas au Saint-Esprit de le faire, c'est à nous-mêmes. Et c'est difficile. L'Évangile est un lieu de décisions difficiles, de décisions radicales. Ce n'est pas venir ici, chanter Jésus, Jésus, je t'aime, alléluia, gloire à Dieu. Et prendre un petit apéro avec les amis et partir. C'est tout un engagement de vie. C'est là où le Seigneur te voit en secret. Parfois on se dit, ah, j'ai pas eu le temps de lire, de prier. Comment je vais prêcher? Comment je vais faire ceci, cela? Le Seigneur ne pense pas comme ça. Le Seigneur pense dans un total, dans un tout. Il regarde ta vie personnelle. Comment est ta vie personnelle? Tu trouves du temps pour prier, pour lire la Bible, essayer de comprendre chaque mot. Parfois, il faut s'arrêter dans un verset pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça entre dans ton cœur. Ça, c'est très difficile. De ranimer notre foi. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est des choses difficiles. Il a demandé une chose très difficile à notre père Abraham. Il a demandé de sacrifier son fils aimé. Cela ne faisait aucun sens dans la tête d'Abraham. Il n'a rien dit à son épouse, parce que sinon, celui qui serait mort, c'était lui, pas son enfant. Il a bien su se cacher en secret la parole de Dieu. L'autre, Jonas, le Seigneur lui demande d'aller à Ninive, prêcher la parole aux ennemis du peuple d'Israël. Jonas, ce qu'il fait, il comprend bien et va dans l'autre sens, à Tarsis. Là, il se cache au sous-sol du bateau, il s'endort. Nous aimons critiquer Jonas, mais je vais vous dire que personne ici est meilleur que Jonas. Parce que ce n'était pas facile pour lui de comprendre Il ne connaissait pas les projets de Dieu, du salut qui allait s'étendre à tous les mondes, pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples. Il n'avait pas toute la connaissance que nous avons. Il ne pouvait pas comprendre que Dieu allait pardonner ces gens à travers de sa prédication. Et Dieu lui fait voyager dans un ventre d'une baleine, d'un poisson, comme une sardine, comme une eau, pendant la semaine dans la RER. Et là, Dieu encore lui fait que la bête qu'il a envalée le vomit sur une plage, et lui qui puait l'aine des baleines. Humilié, fracassé, il s'élève, il va prêcher l'évangile. Il va prêcher la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les jeunes riches qui viennent voir Jésus en lui demandant « Maître, que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. » Et après, tu auras Et après, viens et suis-moi. C'était trop dur pour lui qu'il abandonnait. Triste, il est parti sans avoir pris le courage d'obéir au Seigneur. Et de toi et de moi, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande la même chose, d'être chaud, d'aimer, de porter la flamme. L'évangile, le christianisme, c'est la seule religion qui a osé de transformer l'amour dans une loi. Nous devons aimer, même quand on ne sent pas, on ne sent rien pour la personne. Même quand elle nous a fait du mal, nous devons l'aimer. C'est une loi du Christ. Ah, mais je ne sens pas. Je n'arrive pas à le pardonner. Vous êtes contre la parole de Jésus. Peut-être c'est à cause de cela que tu te trouves tellement froide, que ta flamme n'allume même pas comme une bougie. Il faut entretenir sa vie spirituelle. Et c'est à nous de le faire. Il nous a confié un don, et ces dons ne peuvent être cachés. Il doit être soigné tous les jours, nettoyé, lustré, comme un jardin. Un jardin, si tu n'y travailles pas pendant 15 jours, tu vas voir, il y a des bêtes, il y a des mauvaises herbes qui poussent à cette hauteur, c'est moche, c'est l'abandon, c'est la ruine, c'est comme une maison. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous avez passé un coup de balai, serpillière. Sinon, si tu attends encore 15 jours, tu vas croire qu'il y avait un ours qui habitait dans ta maison. Tellement de poids, de saleté, que ça dégage. Ranime, faire raviver. Le prophète dans l'Ancien Testament a crié, Seigneur, ravive ton œuvre. Malheureusement, dans le livre d'Apocalypse, on lit dans une des lettres écrites aux églises, à l'église d'Éphèse, celle qui Timothée était pasteur. Il est dit à cette église, tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que ça veut dire le premier amour? Est-ce qu'il y a un deuxième ou un troisième? Non. C'est justement une façon de dire que ce n'est plus le même amour. C'est refroidi. Jésus nous avait dit qu'à cause du mal, dans les derniers temps, l'amour de beaucoup se refroidirait. Et je sens... C'est un des signes peut-être les plus puissants du retour du Seigneur. C'est parce qu'on peut concilier être évangélique et être froid dans la foi. Être évangélique et être indifférent à la souffrance de nos voisins. Il y a ceux qui payent leur dîme ponctuellement, mais sont incapables de donner 5 euros à quelqu'un qui a besoin et qui est son voisin. À l'église de Laodicée, il est dit, parce que tu es tiède, je t'ai vomirai de ma bouche. Quelle façon de dire. Je vais vous dire que les premiers pas pour changer cette situation, c'est de reconnaître que nous ne vivons pas nos meilleurs jours. Il faut que nous changions. On ne change pas tout seul. Une église ne s'échauffe pas tout seul. Il faut que tout le monde prenne conscience. Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les évangéliques. L'Église primitive n'avait rien, pas des techniques, pas des livres. Ils n'avaient même pas une Bible. Ils ont gagné tout l'Empire romain était conquis. Ils ont dit qu'ils sont arrivés même en Chine à cette époque pour prêcher l'Évangile. Et après quelques années, tout est tombé dans un formalisme, dans un rituel qui le Seigneur nous garde, qui la flamme brûle toujours dans notre cœur. Dans les versets 8, Paul dit, n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni des moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Mes amis, suivre Jésus, ça veut dire souffrir. Il y a une souffrance qui vient avec notre démarche avec le Seigneur. La première chose qu'on gagne après notre salut, c'est une croix. Je vais vous dire une chose. Et la croix n'a pas des roues, il n'y a pas des GPS, non, c'est pas high-tech, c'est pas en fibre de carbone, c'est toujours en bois, elle est lourde, elle est rude, c'est notre croix et chacun doit porter la sienne. Qui dit homme, être humain, dit souffrance. La souffrance est liée, nous tous ici, soit nous sommes touchés par la souffrance, soit on était déjà, soit nous le serons. On n'échappe pas. L'homme est un être souffrant avant tout. C'est notre condition. Mais nous avons Jésus comme modèle. Jésus qui a souffert comme personne dans ce monde. Personne ne peut dire qu'il a souffert plus que Jésus. Et cette affirmation, j'avais beaucoup de difficultés à accepter. Parce que quand je regarde les films de la Deuxième Guerre, les Juifs qui étaient enserrés dans les camps de concentration, qui ont vu leurs enfants être tués, leurs parents, qui ont dû être battus, pendant des années, je me suis dit, peut-être qu'ils ont souffert plus que Jésus. Non. Jésus a souffert plus que tout le monde, parce que seulement avec une seule parole, Jésus pouvait changer la situation. Jésus qui était le propre Dieu, la deuxième personne de la Trinité, seulement avec un regard, il pouvait tuer tous ces gens qu'il était en train de battre. Mais il a accepté. Il a baissé de sa tête. Il savait qu'il fallait aller jusqu'au bout de son sacrifice. C'est pour ça que Jésus a souffert comme personne. En même temps qu'il était Dieu, il était homme. 100% homme, 100% Dieu. Et il a dû avoir une lutte au-dedans de lui, parce qu'il pouvait tout changer, mais il ne le fait pas à cause de nous, parce qu'il savait que son sacrifice, c'était le seul moyen de nous empêcher d'aller tous mourir éternellement. Mais la souffrance que je vais parler, c'est lié à l'exercice du don, parce que les dons provoquent la jalousie chez les autres. Ah oui, la jalousie, c'est un venin mortel. Nous, on n'essaie pas d'admirer les dons chez les autres, chez autrui, mais plutôt on convoitise les dons. Pourquoi il sait jouer tel bien les pianos et je n'arrive pas à sortir de doré de mes fa? Pourquoi il parle si bien, il prie si bien, il chante si bien, et moi j'arrive pas? Simplement parce que ce n'est pas ton don. Tu dois chercher les tiens, parce que le Seigneur a fait don à nous tous. Timothée avait un don pour le pastorat. Et les gens, il s'offrait aussi avec les gens à cause de cela. Au point que Paul dit à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que les dons, c'est à toi. Les dons dérangent. Les dons des autres nous humilient. Souffre toutes ces choses, Timothée. La vertu d'autrui nous rend tristes. On veut dénigrer l'image et parler mal de ceux qui sont parfois dans en évidence. Peut-être qu'ici c'est une toute petite église, mais même on peut voir déjà, parce que ça c'est en nous, c'est pas de telle et telle église, ça c'est notre nature pécheresse. Mais si tu vas dans une grande église, tu vas voir combien de gens ont été blessés, combien de gens ont arrêté même la foi parce que il fallait faire la queue pour aller parler, parce qu'ils ont été critiqués. Ils n'ont pas eu une deuxième chance parce qu'on veut seulement ceux qui nous aident à nous promouvoir à nous-mêmes. On veut s'en servir des gens qui nous laissent dans notre piédestal. Et là, on ne veut pas céder la place à l'autre personne. C'est pour ça que Jésus a dit, « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Mon Dieu, ça c'est vrai. Que le Seigneur nous aide parfois à être discret dans notre don. Soyez discret, mon frère. Et parfois, il faut le même le cacher aux yeux des autres. Le verset 7 nous dit, « Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout cela pour entretenir notre don. Tout cela pour aller prêcher l'Évangile. » Les contraires des forces, je ne voulais pas dire faiblesse, mais plutôt lâcheté. Les contraires d'amour, plutôt mesquinerie. S'attacher à ce qui est médiocre. On ne peut pas avoir de tels sentiments pour l'œuvre de Dieu. Et la sagesse, c'est pour bien conduire ta vie entre nous. Quelle belle combinaison, force, amour et sagesse. Si c'est ce soir, on pourrait tous partir d'ici avec un peu plus d'amour, avec force et sagesse. L'amour, ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur, de l'Esprit qu'il est Seigneur a répondu dans notre cœur. La force ne vient pas de nous. Par nous-mêmes, on laisse tout tomber et on répare une vie normale. Pourquoi aller à l'église si je peux rester devant la télévision, si je peux aller au parc, si je peux aller à Euro Disney avec mes enfants? Pourquoi aller à l'église? Et la sagesse de Dieu qui est folie aux hommes. Et Paul, j'aimerais terminer avec les versets 12, quand Paul dit: et c'est à cause-là que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. La même assurance que nous pouvons avoir dans notre cœur. On pouvait même utiliser les paroles de Paul et dire: je sais en qui j'ai cru. Tout ça que nous faisons pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas en vain, c'est pour Dieu. Et le Seigneur, au dernier jour, comme il a dit dans la parabole des mines, en Matthieu 25, Dieu va récompenser à chacun de nous de ce que nous avons fait avec nos dons. Et que tu puisses entendre dans ces jours: serviteur bon et fidèle, entre dans la gloire de ton Seigneur. Que cette Église puisse accomplir l'œuvre de Dieu que Dieu a confiée pour cette Église à sa mort. Que chacun de nous puissions, que chacun de nous puisse vraiment entendre ces paroles du Seigneur. Et c'est la méditation que je voulais apporter cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.